décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle le thème de notre débat de tout à l'heure. Il porte sur l'élection couplée au Burkina Faso dimanche prochain pour les législatives. 127 sièges de députés sont à pourvoir et 13 candidats en course pour la présidentielle. Et 6 490 144 électeurs sont inscrits et attendus dans 21 155 bureaux de vote. Mais d'abord, la Côte d'Ivoire qui cherche les solutions pour sortir de la crise post-électorale dans laquelle elle est empêtrée. Une crise qui a une incidence sur les investissements.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Stanislas Zézé, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le président directeur général de Bloomfield Investment. Merci de répondre à nos questions. Dans quel état se trouve l'économie ivoirienne dans ce contexte de crise politique?
Écoutez, les crises politiques généralement sont ponctuelles. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas une crise qui a vocation à avoir un impact considérable sur les fondements ou les fondations de l'économie ivoirienne. L'économie ivoirienne est une économie qui est assez résiliente, du moins vis-à-vis de certains types de chocs. Donc je crois qu'aujourd'hui, elle est, même si on l'a dégradée en termes d'environnement des affaires et qu'on estime que la perspective pour l'instant est négative, elle demeure une économie très solide. Donc.
Et vous parliez de dégradation, quelle est l'ampleur de cette dégradation?
Elle est de 400 points de base. Hein. On a dégradé l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Enfin, chaque année, nous sortons un riche pays qui est noté sur 10. Donc la Côte d'Ivoire l'année dernière était à 6 et aujourd'hui elle est descendue à 400 points de base. Enfin, moins 400 points de base, elle est à 5,7 sur 10. Donc ça demeure quand même quelque chose de correct.
Et quelles sont les principales craintes des opérateurs économiques et des sociétés d'investissement comme la vôtre avec cette instabilité politique ou plutôt avec cette situation politique?
Mais écoutez, vous savez que pour faire du business dans un pays, il faut qu'il y ait de la stabilité et qu'il faut qu'il y ait de la continuité. Évidemment, une crise comme celle-là ne rassure pas sur la stabilité. Donc, les gens ont besoin, quand ils investissent dans un pays, ils se posent trois questions fondamentales. Quelle est l'opportunité d'investir? Quel est le retour sur investissement? Et quel est le risque de perdre son capital? Donc, évidemment, une situation d'instabilité comme celle-là ne permet pas de prendre des décisions d'investissement. Ceux qui ont déjà des investissements vont limiter l'impact du risque en ne mettant plus d'argent en attendant. Et ceux qui n'ont pas encore investi ne vont pas investir jusqu'à ce qu'il y ait ne serait-ce qu'un semblant de quiétude et de stabilité.
Vous voulez dire, M. Zézé, que certains investisseurs ont renoncé ou différé leur projet d'investissement en Côte d'Ivoire?
Mais bien sûr, comme dans tous les pays qui seraient dans la même situation que la Côte d'Ivoire, bien sûr qu'il est différent. Ils ne viendront pas investir dans une situation comme celle-là, ce n'est pas possible. Et généralement, quand un investisseur décide de ne pas venir dans un pays parce qu'il y a une situation particulière, il ne revient pas nécessairement l'année prochaine, il revient quelques années après.
Parfois, ils changent de destination, ils vont vers les pays les plus stables.
Un peu, voilà, parce qu'ils ont le choix. Malheureusement, les investisseurs ont le choix. Même si on reconnaît que le poids et l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire est quand même un des plus importants dans la sous-région, les gens vont certainement renoncer à plus de retours sur investissement, mais dans un environnement plutôt serein.
Et justement, parlant du climat des affaires, M. Zézé, est-ce qu'il a subi des conséquences de cette crise politique et de quelle manière?
Mais vous savez que dans les critères de l'environnement des affaires, il y a la stabilité politique. Et qui est un élément fondamental dans l'environnement des affaires, parce que tout découle du politique. Les décisions d'améliorer l'environnement des affaires découlent du politique, toutes les décisions administratives découlent du politique. Donc évidemment, s'il y a une crise politique, elle cristallise l'environnement des affaires et elle crée justement ce frein-là.
Quels sont les secteurs les plus touchés par le ralentissement des investissements en raison justement de la crise politique?
Bon, vous savez, généralement, tous les secteurs sont interconnectés. Comme je vous dis, tous les secteurs sont interconnectés. Mais la particularité aujourd'hui, c'est qu'en plus de la crise politique, vous avez la crise du Covid-19.
Absolument.
Donc, ces deux phénomènes-là combinés justement ralentit de façon significative même les possibilités.
Mais le Fonds monétaire international semblait plutôt optimiste en annonçant une croissance économique positive de 1,8% en 2020.
Ouais, mais quand vous partez d'une anticipation de 7,6 à 1,8, je ne sais pas ce qu'il y a de positif dedans.
Donc vous contestez cet optimisme du Fonds monétaire international ?
C'est pas que je conteste, c'est un optimisme qui n'a pas de sens. La Côte d'Ivoire perd en croissance. Elle devait cette année, elle anticipait avoir 7,6%. Elle est dégradée à 1,8%. Ce n'est pas, il y a pas d'optimisme dedans. Enfin, il y a pas de raison de se réjouir. Au contraire, c'est de voir comment va se faire la reprise et pour que la Côte d'Ivoire espère retrouver le niveau de croissance qu'elle avait avant la crise, c'est-à-dire autour de entre 7 et 8% pour l'année prochaine. Quoique aucun conflit ne peut être résolu sans qu'on ne se parle. Donc, les investisseurs ne pensent pas que les choses se font de façon automatique, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui indique qu'on est en train d'aller vers une solution. Et ça, c'est toujours cette piscine-là que les investisseurs attendent.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Bonne journée, madame.
Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment en Côte d'Ivoire. Merci.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Place à présent au débat dans le grand rendez-vous sur l'élection présidentielle ainsi que législative au Burkina Faso avec nos invités. Maxime Koné, membre du bureau exécutif du MPP au pouvoir et député à l'Assemblée nationale. Monsieur Koné, bonjour.
Oui, bonjour.
Ou plutôt bonsoir. Bonsoir Yves Milogo, responsable de la communication du CDP, ancien parti au pouvoir. Vous êtes en ligne, monsieur Milogo ?
Oui, bonsoir.
Merci également à vous, Boukari Woba, secrétaire général de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Nous sommes heureux de vous accueillir, messieurs. Monsieur Woba, vous êtes là ?
Je suis là. Bonsoir, madame.
Bonsoir à vous. Je vais commencer avec vous, monsieur Milogo, du CDP. Quelle appréciation portez-vous sur le déroulement jusque-là de la campagne électorale ? On en est à la troisième et dernière semaine.
Oui, effectivement, la campagne se déroule très bien. Nous sommes de plus en plus enthousiastes de la réception du message de notre candidat par l'électorat. Et cela prouve que le peuple burkinabé, enfin, voit en notre candidat l'espoir pour des lendemains meilleurs. Dans la mesure où c'est le seul qui a un programme, déjà avant même son programme, il a sorti un livre qui s'intitule « Mon ambition pour le Burkina Faso ». Et quand lui, il va au contact de toutes les populations, sa démarche pour rencontrer les populations, c'est de faire une campagne provinciale. Ça veut dire parcourir les 45 provinces, aller au contact de toutes les populations. Ce qui n'est pas le cas de certains candidats. Mais ils vous diront qu'est-ce qu'ils vont adopter.
Pour le moment, nous parlons, hein, nous essayons d'analyser hein, les deux premières semaines de la campagne. On ne parle pas vraiment des programmes de candidats, leurs atouts, puisque tous les candidats ne sont pas représentés ou il n'y a pas les représentants de chacun des 13 candidats ici. Donc, nous n'allons pas vraiment rentrer dans le programme des candidats. Donc, votre candidat étant évidemment Eddy Kombo-Higo. Monsieur Maxime Koné, vous êtes vous aussi satisfait du déroulement jusque-là de la campagne présidentielle?
Oui, effectivement, nous sommes satisfaits de la manière dont la campagne se déroule. Et c'est lié d'abord à une très bonne préparation, parce que pour qu'il y ait une bonne campagne, il faudrait quand même baliser le terrain. En ce qui nous concerne, le terrain a été balisé à tous les niveaux, politiquement, juridiquement, bien sûr, à travers les structures qui devaient avoir en charge ces élections, ou à travers aussi, bien sûr, le code électoral, qui a été un élément qui a été révisé de manière consensuelle avec l'accord de toute la classe politique. Et donc, si ce travail préalable a été fait de manière correcte, il en va de soi que, pour le moment, la campagne se déroule très bien au niveau du MPP. Et les différents programmes qui ont été activés sont en train de produire les effets sur le terrain. D'autant plus que nous sommes un parti qui a une assise nationale. Et donc, nous, notre candidat n'a pas besoin de faire les promesses. Il s'est mis aux régions et il a des soldats qui sont dans toutes les provinces, dans tous les départements, dans tous les villages.
Merci.
Qui sont en train de faire le travail.
J'imagine que vous voulez parler de campagne décentralisée. Mais monsieur Milogo Ekone, quel a été l'impact de difficultés, des problèmes sécuritaires dans votre campagne? Est-ce que vous avez pu aller dans chaque localité que vous souhaitiez ou à un moment donné, vous avez dû renoncer à certains déplacements en raison de la difficile situation sécuritaire?
Je pense que pour nous...
Monsieur Milogo, d'abord, s'il vous plaît.
Oui.
Monsieur Milogo.
Concernant notre candidat, nous avons un itinéraire qui jusque-là est respecté par le candidat. Alors moi-même, dès le lancement de la campagne du côté de Tenkodogo, moi j'y étais. Et ensuite, il a parcouru effectivement les provinces nécessaires. Nous sommes allés dans le sud, dans le sud-ouest. Et tout l'itinéraire, mais nous tenons à saluer quand même le dévouement des forces de sécurité et de défense. Tout au long de notre trajectoire, nous les avons vus en œuvre. Nous avons vu qu'ils patrouillaient le long du chemin, le long des frontières.
Monsieur Milogo, je parlais notamment de la partie nord du Burkina Faso en proie à l'insécurité, aux attaques récurrentes.
Oui, mais cette partie, nous n'allons pas l'abandonner parce que si nous abandonnons cette partie, nous abandonnons la place.
Est-ce que votre candidat s'y est rendu? Est-ce que vous avez pulsionné les localités du nord du Burkina?
Notre candidat, il a l'itinéraire Kaya Dori aujourd'hui. Alors, donc, nous ne devions pas. Nous avons confiance en nos forces de sécurité et de défense. Nous, en allant là-bas, ça les encourage aussi. Ils voient que les politiques ne les abandonnent pas. Quand nous arrivons dans ces localités, nous les voyons en eux, nous les encourageons. Et eux aussi, ça les fait chaud au cœur. Donc, pour que ces questions sécuritaires, bon, nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous savons jouer la prudence et avoir confiance en nos forces de défense et de sécurité.
Mais pourquoi vous avez tenu à prendre le risque d'aller dans ces zones malgré la menace qui est réelle? Est-ce que vous ne craignez pas de vivre ce qu'on a vu au Mali avec l'enlèvement du leader de l'opposition en pleine campagne électorale pour les législatives?
Madame, effectivement, le risque existe. Nous mesurons bien le risque. Mais nous ne pouvons pas, en raison des terroristes, abandonner nos populations. Ces gens ont soif. Depuis des années, ils ont été abandonnés. Le pouvoir en place, celui du MPP, les a doublement abandonnés, non seulement en fermant les écoles et les administrations. Là n'est pas notre philosophie. Notre philosophie est d'aller à la rencontre de nos concitoyens. Et nous prenons le risque pour eux. Ça veut dire que si nous ne pouvons pas prendre du risque pour eux aujourd'hui, demain au pouvoir, allons peut-être faire pire.
Monsieur Koné, votre candidat a pu se rendre, et d'autres d'ailleurs aussi, dans la partie nord où l'insécurité y règne?
Oui, avant tout, je voudrais tout de suite rectifier les propos un peu déplacé du porte-parole du CDP, pour dire qu'en aucun moment, le MPP n'a abandonné la population. La preuve par trois, c'est que lui-même a dit que partout il passe, il voit les forces de défense et les sécurités et les filles. Il ne peut pas dire qu'il les voit sur le terrain et qu'il dit qu'on a abandonné la population. C'est-à-dire que la question sécuritaire a été au cœur de notre gouvernance politique.
Et au cœur de la campagne, d'ailleurs, voilà.
Oui,
comment a été la campagne du CDP et du MPP dans ces parties?
Bon, je pense que moi-même, je suis un exemple. Moi, je suis dans une zone et en proche à l'insécurité. Je suis candidat dans la Koussi. Je viens de tirer le meeting aujourd'hui même à 10 heures. J'ai une zone comme Kombori, comme Barani, comme Sonon, directement parce que je fais frontière avec le Mali. Et donc, et nous savons que ce n'est pas du tout facile. Mais nous avons le devoir, en tout cas, de travailler dans ces zones pour montrer aux populations que nous sommes là avec elles et que nous sommes, en tout cas, nous n'avons pas abandonné ces espaces.
Merci.
Et ces espaces font partie toujours du Burkina. Si ces espaces font partie du Burkina, nous avons le devoir de
vous y rendre
là-bas pour discuter avec eux.
Ce
qui est clair à notre niveau, c'est que nous avons eu une très bonne communication, nous avons eu des échanges et très, très, très francs avec nos forces de défense et de sécurité qui nous ont demandé de déposer le programme d'activité, notre itinéraire, et ils nous donnent, ils nous accompagnent pour dire...
Merci. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'incident au niveau des...
Pour le moment, grâce à Dieu, d'accord. Et grâce aussi à la perspicacité de notre dispositif sécuritaire, qui est un dispositif d'abord politique, et qui est voulu par le président du FASCO, qui veut montrer aux yeux du monde entier que malgré la situation sécuritaire difficile, le Burkina est capable Merci. De répondre à un rendez-vous démocratique, à un rendez-vous d'élections libres, transparentes, mm-hmm. où tout le monde peut participer.
Merci beaucoup. Boukari Kouba, alors qu'en est-il du travail des journalistes? Est-ce que vous avez pu vous rendre compte que l'insécurité n'a pas eu à perturber la campagne électorale, ou vous vous dites qu'il y a quand même des moments où on se rappelle que cette campagne se déroule dans des conditions sécuritaires difficiles?
À la date d'aujourd'hui, je pense que si on doit faire un bilan, on peut dire que tout se déroule plus ou moins bien. Mais cela n'empêche pas qu'on ait enregistré quand même quelques incidents. Je m'étonne que les deux représentants des partis politiques n'aient pas fait cas de cela d'ailleurs. Il y a le convoi, ou du moins c'est le véhicule d'un député qui a été attaqué dans le Sahel. Ce chauffeur en a perdu la vie et le véhicule a été emporté. Et puis, tout dernièrement, on a eu une attaque quand même qui a causé la mort de 14
personnes. Je crois que c'est peut-être parce qu'ils insistent davantage sur la campagne pour l'élection présidentielle. C'est vrai qu'avec la présidentielle, on a un peu tendance à oublier qu'il y a aussi des candidats en liste, près de 10 000, je pense, pour les législatives.
On parle de l'attaque du véhicule d'un député. Bon, il était certainement en campagne en tant que député, mais... Tout est que tous les candidats à la députation aussi, la plupart des battent campagne pour la présidentielle, donc pour leur candidat. Et celui-là, d'ailleurs, c'est un député donc du parti au pouvoir. Sans doute que dans la campagne législative, en ce qui le concerne, c'est aussi la campagne présidentielle. Donc ces deux incidents majeurs quand même qui se sont déroulés pendant cette période de campagne électorale, d'une certaine manière, nous rappellent que le pays n'est pas totalement sécurisé. En dépit de toutes les mesures qu'on a pu prendre avant d'entrer donc en campagne, vous savez qu'il y a au moins 22 communes aujourd'hui qui sont exclues donc de la participation donc à ces élections-là. On constate aussi que les campagnes se déroulent généralement dans les chefs-lieux de région.
Merci, Boukari Woba. On va revenir à vous tout à l'heure. Édouard Béranger-Ning, bonsoir.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Vous venez avec les questions des auditeurs qu'on écoutera juste après une petite pause.
À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et notre débat se poursuit ce soir sur l'élection couplée législative et présidentielle au Burkina Faso, prévue dimanche prochain. Mais nous allons aussi parler en fin d'émission de l'après-élection. Alors qu'il est 18h30 dans ce studio Manu Dibango, Africa Radio à Paris, et 17h30 à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou, nous vous recevons, Edouard, avec la première question de Abdoulaye Diallo.
Effectivement, Liliane, et Abdoulaye Diallo qui demande à Monsieur Maxime Koné, n'avez-vous pas l'impression d'avoir échoué sur le plan de la politique sécuritaire, Monsieur Koné?
Bon, écoutez, au niveau du Burkina, nous avons hérité d'un appareil sécuritaire totalement obsolète, dont l'objectif ultime, ce n'était pas de maintenir la sécurité humaine, la sécurité des personnes, mais malheureusement, c'était concentré sur la sécurité des régimes. Et nous avons pris le pouvoir dans ce contexte particulièrement difficile. Et vous connaissez l'histoire de notre armée, et nous avons tenté, dès la prise du pouvoir, de reconstruire une armée républicaine, une armée neutre, une armée royale et loyale, et puis où il y a le sens de la mission, le sacrifice suprême pour la nation. Et c'est en cela que, pour la première fois, le pays s'est doté d'une politique de sécurité nationale. On n'a jamais eu une politique de sécurité nationale et qui, en tout cas, prend en compte non seulement la sécurité de l'État, mais la sécurité des personnes. Et c'est dans cette idée qu'une loi de programmation militaire a été votée qui permettra en tout cas à nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance, aussi bien dans la formation et que dans l'armement. Parce qu'il faut dire, même les armées les plus sophistiquées, les plus aguerries, ont du mal à venir à bout face au phénomène terroriste.
Merci
je
beaucoup.
Je ne fais pas des comparaisons, mais je vous dis clairement que beaucoup de pays, comme les États-Unis, se sont embourbés en Afghanistan.
Merci donc, beaucoup, M. Koné. Merci beaucoup pour votre réponse. Prochaine question, Edouard. Celle-ci est adressée à M. Milogo.
Exactement, une question de Ousmane Bamba, de nos auditeurs. Quelle stratégie proposer pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme au Burkina si toutefois vous parvenez à accéder au pouvoir?
Le candidat du CDP.
Oui,
du CDP.
Avant de répondre à cette question, rétablissons les choses. Je pense, Maxime, M. Koné, ils forment effectivement ses compagnons au pouvoir. Ils sont dans le vrai déni. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a jamais eu une politique sécuritaire au Burkina. Nous avions une armée qui était bien formée, mais seulement vous avez déconstruit cette armée, vous avez démantelé l'armée. L'extérieur vous a dû faire des erreurs et les terroristes en ont profité. Depuis les années 60, nous avions une armée qui défendait le territoire et les citoyens. Même pendant la transition, toutes les velléités pour attaquer le Burkina, personne n'osait. Il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas une armée. Ça, c'est insulter un peu la compétence.
Merci, M. Milogo. Une fois cette mise au point faite...
En question sécuritaire, nous avons des réponses à apporter. La première des choses, il faut effectivement redonner à la sécurité et à la défense les moyens nécessaires et renforcer le renseignement, avoir traité les vraies questions. Parce que eux, d'abord, ils nous disent qu'ils ne savent pas qui est-ce qui nous attaque. Mais ça veut dire pendant 5 ans, quelqu'un vous attaque, vous ne savez même pas qui est-ce qui vous attaque. Nous irons savoir qui nous attaque et comment effectivement les contrecarrer et sécuriser toute l'étendue du territoire burkinabé. Aucun centimètre du territoire burkinabé n'est négociable. Ça,
merci.
C'est non. Mais nous allons utiliser la diplomatie parce que avant, au lieu que vous soyez attaqué, vous soyez toujours obligé de réagir. Mais nous faisons une politique proactive.
Merci.
Nous allons dévancer effectivement ces attaques. C'est ceux qui n'ont pas à l'intérieur de leur pouvoir. Quand il dit que la politique sécuritaire, c'est le résultat de leur politique. Depuis les années 60 jusqu'à maintenant, nous n'avions pas eu des attaques. Parce que nous avions ceux qui dirigeaient, y compris Compaoré, avaient une intelligence de la défense du territoire.
Merci beaucoup, M. Milogo. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour revenir sur ce débat CDP-MPP, sur qui est responsable de la situation sécuritaire au Burkina Faso qui se dégrade aujourd'hui.
Nous n'avons pas la bonne analyse.
Merci. Pouvons-nous poursuivre encore, messieurs, avec votre permission, quelques minutes sur la campagne électorale? Et je vais m'adresser à vous à nouveau, Boukari Wobo. Vous avez été interrompu avant la pause. Alors, je vais vous poser cette question. Boukari, est-ce que vous avez observé pendant cette campagne électorale qui est en train de s'achever des actes répréhensibles? Parce que la commission électorale, le président de la commission électorale a attiré l'attention dès le début de cette campagne sur des pratiques publicitaires à caractère politique en évoquant la distribution des cadeaux ou des libéralités qui, il précisait s'il était... des pratiques interdites par l'article 68. Il a également insisté sur l'utilisation des fonds publics pour la campagne électorale. Est-ce qu'il y a eu des actes inappropriés et répréhensibles pendant cette campagne? Ou des discours haineux, par exemple?
Les discours sont plus ou moins assez policés, mais effectivement, les pratiques du genre... la pollution électorale, ça ne manque pas. C'est une pratique très ancienne chez nous et peut-être d'ailleurs un peu partout en Afrique, c'est des pratiques qu'on voit. On dirait que ce n'est pas de la grande pollution, mais c'est quand même de la pollution. Lorsque, par exemple, on est obligé de donner du carburant pour mobiliser des gens qui vont aller suivre un meeting, de leur donner des billets de 1000 francs, de leur donner souvent du tissu.
Est-ce que l'ampleur était importante ou bien c'était des actes isolés, cette distribution d'argent ou de carburant?
Non, pas tout à fait isolé. C'est une situation générale qui concerne d'ailleurs aussi bien les partis au pouvoir que les partis de l'opposition.
Rien que de dire, c'était pour le 10, je crois bien, le réseau national de lutte anticorruption a fait une déclaration. Dans cette déclaration, beaucoup de parties sont éteintes et les pratiques qui sont décrites justement, c'est la distribution donc de billets de banque, de carburant, de motocyclettes même. Des cadeaux qui sont faits à des chefs coutumiers et religieux, la distribution de t-shirts, de pains, passe d'enfants, aux couleurs des partis politiques et bien d'autres gadgets. Donc tout ça, ça tend justement à mobiliser les gens sur la base donc des cadeaux.
D'accord.
qui est condamné donc par le code électoral dernièrement adopté en 2015. Et dans ce code électoral, il est interdit, par exemple, de distribuer des t-shirts. Et cette année, on constate qu'il n'y a pas de t-shirts, mais chaque parti politique aujourd'hui a ses couleurs. Et dès que vous avez un pain, un habit qui t'envoie telle couleur, on sait que vous appartenez à tel parti politique.
Donc, d'accord. Donc, il n'y a pas un respect
de la loi électorale.
D'accord. Et qu'en est-il, Boukari, après on va revenir aux politiques, qu'en est-il du respect du code de bonne conduite qui avait été signé par les candidats sous l'égide du Conseil supérieur de la communication?
Il est plus ou moins respecté. Le Conseil supérieur de la communication a fait dernièrement un premier bilan où il s'est dit quand même satisfait. En ce qui concerne bon, les propos des candidats relayés dans la presse, il y a eu, je crois, 9 situations qui sont déplorables, mais je crois que si on regarde par rapport à l'ensemble de cette campagne qui est déjà dans sa 3e semaine, on peut dire que ce n'est pas quelque chose de bien grave. Donc, d'une
Merci.
Manière générale, les candidats respectent le parc de bonne conduite et aussi les médias qui sont concernés aussi par ce parc-là essaient quand même de respecter les principes qui leur sont édités. Et nous, en tant qu'association des journalistes de Bouquin, nous avons eu à attirer l'attention des journalistes par 2 fois à travers une déclaration d'abord depuis le mois d'août. Et puis la dernière déclaration date du 29 octobre, juste avant d'entrer en campagne électorale, où nous attirons donc l'attention des journalistes et du professionnalisme.
Et nous allons nous retourner vers les hommes politiques. Monsieur Koné, pourquoi continuer à violer un engagement que vous avez pris en 2015? Votre parti continue à distribuer, à être accusé de distribuer de l'argent. Boukari parlait tout à l'heure de parti au pouvoir et aussi de l'opposition. Pourquoi ces pratiques continuent-elles?
Bon, je ne suis pas au courant de ces pratiques, hein. Donc je ne saurais vous répondre.
Le MPP ne distribue pas d'argent, ne donne pas les frais de carburant.
Nous n'avons jamais distribué d'argent. Alors, il y a des structures qui sont habilitées pour dénoncer ces faits, pour les recenser. Et puis, la loi punit ces faits. Je crois que si ces faits sont avérés sur le terrain, et qu'on saisisse la justice et qu'on dise le droit.
Monsieur Milogo,
voilà. Maintenant.
Monsieur Koné, Denis. Moi-même, en tant que responsable de la communication du CIP, nous avons sorti un communiqué pour dénoncer effectivement ces dérives. Nous saluons effectivement la
présence. Donc, c'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas dans ces accusations? Le CDP ne distribue pas d'argent?
Le CDP n'a pas d'argent. Ceux qui sont au pouvoir, non seulement quand leur candidat se déplace, il se déplace non seulement avec les moyens de l'État, ça veut dire toute la logistique de l'État avec des véhicules.
On peut faire également le même reproche au CDP quand il était au pouvoir.
Mais madame, je suis d'accord avec vous. Mais le CDP qui était au pouvoir, c'était qui était au pouvoir? Le président du CDP s'appelait Roch-Marc Christian Taboré. Moi, en ce temps, j'étais à Paris étudiant. Mais donc, ceux-là, les partis qu'on reprochait au CDP, Dieu merci, se sont déplacés actuellement au MPP. Et nous avons un CDP avec de nouvelles personnes. Éric Compoyo n'était pas responsable dans le CDP il y a 10 ans.
Merci. Donc, alors revenons à cette distribution d'argent.
Nous essayons de respecter la loi. Ils ont voté la loi à l'époque contre le CDP parce qu'ils avaient peur du CDP. Non seulement, en plus de cette peur, ils avaient écarté le CDP aux élections présidentielles. Mais maintenant, ils se rendent compte que le CDP, contrairement à ce que lui dit, le CDP est présent dans chaque village. Le logo seulement du CDP.
Monsieur Milogo, pardonnez-moi de vous interrompre à nouveau. Donc, vous niez formellement que votre parti ne distribue pas d'argent. Les candidats aux législatives, comme votre candidat Edi Komboigo, ne distribue pas d'argent aux électeurs?
pas d'argent. Nous,
pendant
nous,
la campagne électorale.
Les fonds de la campagne sont financés par les candidats et par nos militants. Nous n'en avons pas assez pour distribuer aux gens.
Merci.
Le nom seulement du CDP donne espoir aux populations et ils nous suivent. Eux-mêmes, certains de leurs candidats nous ont dit, vous ne distribuez rien. Mais quand vous passez, les gens vous suivent comme des mouches.
Merci. Monsieur Milogo, je comprends que vous êtes en campagne, vous souhaitez saisir toute opportunité, mais essayons de respecter le cadre du débat, s'il vous plaît, étant donné que les représentants de 11 autres candidats ne sont pas là. Je vais maintenant m'adresser à vous, messieurs, pour parler un peu du processus en lui-même. Est-ce que vous avez confiance en ce processus? Vous pensez, monsieur Koné, que toutes les dispositions ont été prises au niveau de la commission électorale et en amont aussi pour que l'élection, la transparence de l'élection soit garantie?
Madame, je voudrais d'abord m'excuser. Alors, je crois que si nous devons mener un débat très serein et respectueux, je voudrais que vous donniez la parole à M. Milogo qui finisse de dire ses contre-vérités et avant qu'on fasse le vrai débat. Parce que tout ce qu'il est en train de relater, je ne pense pas que il soit réaliste dans ce contexte au Burkina Faso. Et de toute façon, après tous ces thèses libres, les élections du 22 novembre vont donner les résultats et on va voir ce qui pèse son parti sur le chiquier national. Et malgré les propos qu'ils tiennent pour accuser notre candidat président, ils ont toujours les cadres du CDP qui sont avec eux. C'est eux qui sont en train de conseiller son président. Donc je m'arrête là pour dire que pour moi, le processus électoral est un processus qui a été très bien organisé et avant.
Donc il y a un consensus au niveau de la classe politique sur le fichier électoral.
Je peux vous dire, j'ai plusieurs casquettes. Je suis le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est une commission que je dirige depuis 3 ans. Donc, tout ce qui est code électoral, tout ce qui est modification du code électoral, j'étais un acteur majeur avec toutes les grandes figures de la scène politique nationale. Je dis aussi, par rapport à mes propos sur la sécurité, je suis un expert en sécurité. J'ai publié en septembre un livre intitulé « Chronique sécuritaire au Burkina Faso ». J'ai été membre du comité scientifique qui a rédigé la nouvelle politique de sécurité nationale. Donc, quand je parle, au-delà de ma casquette politique, c'est quand même une approche scientifique. Donc je dis et je répète que le Burkina n'a jamais eu de politique sécuritaire. Nous avons posé le diagnostic.
Merci,
pour la
monsieur.
Première fois dans notre pays, nous avons eu une agence nationale du renseignement.
Merci beaucoup, monsieur Koné. On va marquer une pause et puis on vous laissera poursuivre vos propos juste après.
Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons de la campagne électorale pour les législatives et présidentielles au Burkina Faso. Comment les candidats s'organisent-ils pour peut-on garantir un scrutin transparent? Et messieurs, je vous rappelle que nous avons pour tout et en tout 7 minutes pour cette dernière partie et je vous prie d'être bref dans vos réponses. Je vous redonne la parole, monsieur Koné, membre du bureau exécutif du MPP. En quelques secondes, alors je vous prie de répondre à cette question. Est-ce que vous faites confiance aux dispositifs qui ont été mis en place pour organiser cette élection? Est-ce que la transparence de ce double scrutin, d'après vous, est garantie?
Il n'y a jamais eu autant d'ouverture dans un processus électoral au Burkina que cette fois. Le président lui-même a initié un dialogue politique. Il a invité toute la classe politique. Ils ont discuté. Et ils ont eu un consensus sur les points à modifier sur le code électoral. Et le président s'est tenu à ses dispositions. Je vous assure, en tant que président de la commission des lois, pour la première fois au Burkina Faso, j'ai reçu la majorité et l'opposition ensemble. Ils ont exigé que je les reçoive ensemble pour qu'ils disent devant la commission, devant les députés, qu'ils sont tous d'accord avec le processus en cours.
Merci. Merci. Monsieur Milogo, confiant quant à ce processus, quant à la transparence de ce processus?
Alors, je pense que la CENI a fait un excellent travail. Et au niveau du fichier, effectivement, nous avons espoir qu'il y aura une transparence. Comme je vous le dis, nous avons affaire à des à un parti qui est au pouvoir, qui a tous les moyens, effectivement, pour parasiter un peu le fichier de la CENI. Contrairement à ce que nous réclamons, puisque nous avons été alertés, non seulement par les forces de sécurité et de l'ordre, mais aussi par nos militants, qu'ils ont des pratiques qui consistent à recenser, à prendre les cartes d'électeurs de certains électeurs, moyennant une somme d'argent. Nous ne savons pas à quel but cela est décidé. C'est pourquoi nous avons informé la CENI et même la CEDEAO que le décompte manuel va valider ces résultats. Comme nous le connaissons depuis, comme ils sont maintenant, ils savent que le CDP revient plus fort, ils vont manœuvrer pour que, effectivement, ces résultats-là ne soient pas transparents. Donc nous nous disons, le décompte manuel par centre sera la méthode de validation des élections.
Merci.
Nous savons que nous n'avons pas accès à ce sujet, mais ils ont accès.
D'accord. Et au niveau du Conseil constitutionnel qui valide en dernier lieu les résultats, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel est crédible?
Mais non, nous avons confiance à nos institutions. Voilà.
Merci.
Tout ce qu'il y a comme manœuvre, c'est surtout pour contrôler ces institutions. Et nous avons informé toutes ces institutions de la présence des cybercriminels et des manœuvres qui se font sur le terrain. Et nous avons informé tous nos militants et même les autres.
Est-ce que là, vous préparez, déjà l'opinion à une contestation, M. Milogo?
Pas du tout. Non, pas du tout.
Mais vous venez de dire que vous êtes satisfait du travail de la commission électorale et ensuite vous relevez, vous dites qu'il y a des pratiques que vous relevez.
Notre objectif est de dire qu'il faut compter les voix manuellement pour rassurer tous les citoyens. La contestation n'est pas notre méthode.
Ok. Boukari Woba, vous êtes là, cher confrère?
Oui.
Par rapport à cette possible contestation des résultats de l'élection, est-ce que vous pensez que tout a été fait en amont pour qu'on n'assiste pas à une crise post-électorale forte comme on en a vu dans d'autres pays comme la Guinée ou encore la Côte d'Ivoire, même si évidemment il ne s'agit pas de troisième mandat à contester?
Oui, mais si vous permettez, je vais revenir très rapidement sur les velléités de corruption, parce que c'est quand même étonnant que les deux partis tous mis en bloc ce qui a été donné de constater ces deux jours-là. De l'a dit clairement dans son rapport, le lundi 2 novembre, où à la station Otam, au secteur 3 de la ville de Kourou, était devenue la contestation du parti de Dikombo, c'est-à-dire le CDP. Et on distribuait du carburant à tous ceux qui voulaient aller au meeting. C'est pareil pour le candidat Marc-Christian Kaboré lors de son meeting à Tinkorgo, où des points de vente de carburant ont été réquisitionnés.
Donc pour vous, c'est une pratique courante et qu'on assiste pour tous les candidats.
Donc bon, c'est pas étonnant de la part des hommes politiques qu'ils mettent en bloc ce que tout le monde a pu constater.
L'évidence.
En ce qui concerne donc l'issue des élections, à ce jour, c'est difficile de dire que tout a été fait. Mais au moins, on peut dire que jusque-là, le processus fait au moins consensus. Au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, il y a eu plusieurs débats à l'intérieur par rapport à des réformes. Et je crois que l'opposition, la majorité de la société civile, ils ont fini par quand même s'entendre. Donc, les choses évoluent assez positivement. Au niveau du Conseil constitutionnel, il y a eu des recours en ce qui concerne les listes. Il y a eu des décisions qui ont été rendues, certaines décisions même ont été rendues au niveau des tribunaux. Il n'y a pas eu de contestation au-delà de tout ça. Donc, je peux dire que c'est plus ou moins un climat apaisé. Tout est-il que le climat de cette année n'est pas forcément le même qu'en 2015. En 2015, on a vécu quelque chose de pratiquement inédit. On a vu le candidat perdant, qui était le chef d'équipe de l'opposition politique, le candidat de l'IPC, qui a félicité
Zéphirin Diabré
au siège du 20h, donc Roch Marc-Christian Kaboré, pour le féliciter. C'est inédit.
Merci.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer?
Justement, Boukari, c'était ma dernière question pour les représentants des deux candidats. Et ici, Roch Marc-Christian Kaboré, le président sortant, et Eddy Kombo-Higo du CDP. Est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, messieurs, à accepter les résultats de cette élection? Vraiment, oui ou non?
Pour moi, le président Kaboré a été très républicain. Quand il est passé à la télévision, il a dit « si je perds, je m'en irai ».
D'accord. Donc, vous êtes prêts à accepter les résultats. Monsieur Milogo?
Oui, nous sommes prêts à accepter les résultats qui vont respecter la méthode que nous avons soulignée à la CENI et à toutes les institutions qui valident effectivement ces élections.
Et entre deux secondes, monsieur aussi, est-ce que vous êtes confiant par rapport au dispositif sécuritaire qui va accompagner ce scrutin, ce double scrutin, monsieur Koné?
La confiance, elle existe, mais on sait que les terroristes ont plusieurs tours et on se bat dans l'air carquois. Et comme vous le savez, quel que soit votre état de préparation, souvent quand ces gens-là agissent, vous êtes dépassés.
Merci, monsieur. Merci beaucoup et c'est la fin de cette édition du Grand Rendez-vous. Merci à vous Yves Milogo, responsable de la communication du CDP. Maxime Koné, membre du bureau exécutif du MPP Boukari Ouba, secrétaire général de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Merci et à bientôt.